Okapi, Okapi. Okapi.
Bien à votre congolais à 16 ans avec Jean-Claude Tunga, Camonga à la présentation.
Merci, Sina Salama. Près de 2 ans après l'installation des assemblées et gouvernements provinciaux, quel bilan dressait de la gestion des provinces sur le plan sécuritaire, économique et social? Certains gouverneurs viennent de fêter les 2 ans de leur arrivée au pouvoir. Médard Aoussayasinga, gouverneur de la province orientale par exemple, a célébré cette journée mardi 27 janvier dernier. Il y a 2 jours aussi, Julien Faloukou du Nord Kivu s'est élu ses 2 ans de son élection à la tête de la province du Nord Kivu. Au Bas-Congo, province du gouverneur Mbachi Mbacha, le secrétaire de la société civile de cette province, interrogé ce jeudi par Radio Okapi, pense que malgré quelques efforts, le bilan des 2 ans et 1 mois aujourd'hui de gestion de leurs autorités provinciales n'est pas brillant par rapport aux défis. Et nous commençons justement ce soir cette série d'émissions bilan mi-parcours de gestion des provinces par la province du Bas-Congo. Nous recevons pour en parler Philippe Mwandavudi, il est rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo. Germain Kouna, conseiller en communication et délégué du gouverneur du Bas-Congo, Mbachi Mbacha. Et Modeste Mbonigaba, qui intervient comme analyste politique. Il est membre de la société civile. Il a plusieurs ouvrages sur la bonne gouvernance à son actif. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Près de 2 ans après l'installation des assemblées et gouvernements provinciaux, quel bilan dressé de la gestion des provinces sur le plan sécuritaire, économique et social? Le cas de la province du Bas-Congo qui ouvre cette série d'émissions. Des efforts ont été faits par les institutions provinciales pour répondre aux attentes des Bas-Congolais pendant les 25 mois depuis qu'elles sont aux affaires. Le travail qui reste à faire est plus vaste que celui qui a été réalisé. C'est la déclaration de Francis Mbwangi, il est secrétaire de la société civile du Bas-Congo. Mais pour un autre acteur de la société civile, les autorités provinciales n'ont rien fait dans la province. Elles se sont contentées de dons en lieu et place des actions concrètes. Guy-Roger Mpala.
Lors de sa dernière tournée la semaine dernière dans le territoire de Sekebanga à plus de 70 km de Matadi, le gouverneur de province Floribert Simon Mbachi Mbacha a réaffirmé sa détermination de réaliser son programme d'action malgré les difficultés de parcours. Le programme actuel, a indiqué un ministre provincial, est sur la bonne voie. Sur le plan des infrastructures, plus d'une dizaine de ponts ont été jetés à travers toute la province. Des routes réhabilitées, notamment à Matadi, la route qui va du rond-point de Laurent Désiré Kabila jusqu'au quartier Tinkanda, et la route Sekebanza-Kinzaou. Au niveau socio-économique, environ 10% des hôpitaux et certains territoires de la province ont bénéficié des appareils et matériaux de santé et autres. Des entreprises ont été créées, notamment Soko et FGI à Kazangoulou. Sur le plan sécuritaire, le gouverneur du Bas-Congo a déclaré l'année dernière à la presse que le Bas-Congo était en paix malgré les événements malheureux qui ont opposé les adeptes de l'ex-mouvement Bundu-Dia-Congo et les éléments de la police en mars dernier. Dressant les bilans de la gestion de la province, à l'ouverture au début de ce mois de la session parlementaire de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, le président de cette institution a déclaré pour sa part que les résultats escomptés ne sont pas palpables, car d'après François Kimasi, les routes ne sont pas faites, l'enseignant n'est pas payé ou est sous-payé, l'agriculture reste rudimentaire. Face aux critiques du peuple qui accuse les élus de ne rien faire, le numéro 1 de l'Assemblée provinciale attribue l'échec de l'action des institutions provinciales du Bas-Congo au gouvernement central. Et la raison, selon lui, c'est le non-respect par Kinshasa de la retenue à la source de 40% des recettes réservées aux provinces par la Constitution. À titre d'exemple, dit-il, sur 27 milliards de francs congolais prévus au budget 2008 pour le Bas-Congo, le gouvernement central n'a versé que 14 milliards de francs congolais. Pour le président de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, la province doit remodeler et redéfinir son programme d'action et l'adapter aux réalités actuelles. Matadi, Guy-Roger Nyampala, dialogue entre congolais.
Merci beaucoup, Guy-Roger Nyampala. Bonsoir, Philippe Mwandavudi.
Bonsoir, Jean-Claude.
Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce bilan qui vient d'être dressé par notre confrère?
Je crois que Guy-Roger vient de le dire, ce qui se passe exactement. Mais, en ce qui concerne le bilan effectivement du gouvernement provincial, je voudrais quand même lever une certaine option. Parce que le plus souvent, vous voyez, même lorsque, je crois, un ministre a été évoqué par un de vos confrères, ou bien, je crois, par les membres de la société civile qui a parlé avant moi, bien sûr, c'était un enregistrement. Lorsqu'on parle du bilan, pour nous, dans un pays ou dans une province où les infrastructures sont vraiment médiocres, on aime toujours prendre le bilan en rapport avec les réalisations matérielles, donc construction des ponts, construction des routes, construction des écoles, construction des hôpitaux, tout ça. Mais moi, je voudrais plutôt que on prenne le bilan sur le plan global.
Et justement, sur le plan global, il est comment?
Et donc, sur le plan global, il y a lieu de dire qu'il y a des aspects qui sont positifs, je dirais même extrêmement positifs, mais qu'il y a des aspects sur lesquels il faut plutôt avoir un raisonnement nuancé. Là où je vais parler des aspects positifs, c'est, je dois dire, le rétablissement de l'autorité de l'État dans la province. Parce que vous savez que, je crois que, à l'aube de l'élection du gouverneur de province, et pendant même son mandat, au courant de, je crois, une année après son mandat, la province était, je crois, ingouvernable sur le plan de l'autorité de l'État. Donc, un agent du pouvoir public pouvait facilement être lynché dans la rue. Ceux qui sont chargés de recouvrer les impôts les faisaient, je crois, en cachette parce qu'ils ne pouvaient pas se présenter publiquement. Il y avait donc une certaine insécurité au niveau de la province. Alors, je ne voudrais pas mettre ça sur les actifs à 100% du gouvernement provincial parce que l'action est venue de Kinshasa.
Du gouvernement central, donc?
Oui, du gouvernement central. Bien sûr que nous, au niveau de la province, nous avons déploré effectivement tout ce qui s'était passé avant et la manière dont le gouvernement central a maté le mouvement, je dois dire, BDK pour ne pas...
Bon, dire Congo, hein.
Mais je voudrais quand même dire que du moins à ce jour, tout le monde peut circuler librement et donc, avec une certaine façon de parler, je dois dire que la province est maintenant encore sur orbite parce que nous avons quitté l'orbite. Nous ne pouvions plus, à l'époque, recevoir des investisseurs étrangers. Nous ne pouvions plus figurer parmi les provinces paisibles de la province du pays, alors que nous en avions, et d'ailleurs, les monopoles, s'il faut le dire, sur le plan du fait que le Mukongo est pacifique, il n'est pas belliqueux, il n'est pas... Alors, vous comprenez donc ça.
Philippe, on a vous dit, c'est-à-dire que sur le plan sécuritaire, vous voulez dire qu'il y a la paix maintenant au Bas-Congo.
Sur le plan sécuritaire, je veux dire qu'au Bas-Congo, n'importe qui peut circuler, parce qu'à l'époque même, les religieux, l'église catholique, n'importe quelle église devait se cacher. Maintenant, sur le plan sécuritaire, je dois dire que, entre parenthèses, le gouverneur des provinces, aidé par le gouvernement central, a réussi.
Et sur le plan économique et social, très rapidement, s'il vous plaît.
Sur le plan économique, je crois qu'il suffit de lire la Constitution pour voir que le gouverneur des provinces, même les assemblées provinciales, ont des pouvoirs qui leur sont reconnus par la Constitution, mais que le gouvernement central ne leur donne pas le droit de faire usage. Donc, sur le plan économique, je dois dire que la province est encore très loin. Bien sûr que plusieurs missions ont été effectués par les membres du gouvernement provincial en Europe, tout comme aux États-Unis, en vue de faire venir les partenaires économiques parce qu'il y a la paix, effectivement.
Oui.
Mais il n'y a pas encore une réalisation sur le terrain. Sur le plan des infrastructures, timidement, je dirais timidement, nous voyons partir par là des petites réalisations, bien sûr, à modeler au niveau des recettes dont les gouverneurs disposent. On ne dira pas que c'est trop, on ne dira pas que c'est assez, on ne dirait même pas qu'on est presque même pas encore à 20%, mais mieux vaut que rien, mais je dirais que la province a des difficultés financières par simplement ce que le gouvernement central lui fait. Peut-être pas de mauvaises choix parce que le gouvernement central est aussi vite à plusieurs difficultés. Et disons que c'est ça, donc il faut prendre ça comme tel.
Voilà, on va faire réagir justement le délégué du gouverneur du Bas-Congo dans cette émission, Germain Kouna, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Oui, qu'est-ce que vous répondez justement par rapport à ce que vient de dire Philippe Mwandawidi, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo?
Non, merci beaucoup. Je crois que mon intervention à ce sujet voudrait d'abord revenir par rapport au tout premier intervenant qui a brossé un bilan. Mais je crois qu'à mon sens, le plan doit être établi sur base du programme du gouvernement provincial, lequel programme qui a été approuvé à l'Assemblée provinciale. Alors, l'objectif, ou sinon l'un des objectifs globaux de ce programme, c'est la relance de tous les secteurs. Cela en vue de créer une forte croissance. Cette croissance devait nous permettre de créer des richesses. Lesquelles richesses devaient servir pour améliorer les conditions de vie de la population.
Est-ce que vous voulez dire que tous les secteurs sont relancés aujourd'hui?
Je suis en train d'arriver. Lorsqu'on veut relancer la croissance, il y a deux moteurs. Les économistes le savent personnellement bien. Le premier moteur, ce sont les investissements. Le second, c'est la consommation. Et dans une société comme la nôtre, où les crises sociales, économiques, infrastructurelles, tout ça, ont subi une dégradation très remarquable, très avancée, on ne pouvait que recourir sur les investissements, puisque la consommation est presque nulle. Et pour avoir les investissements, justement, il y a une démarche à suivre. Et la démarche, et c'est là où il faut comprendre la vision du gouverneur, c'est qu'il faudrait aller secteur par secteur. Le tout premier secteur, naturellement, c'est le secteur politique, qui englobe la sécurité interne, les bonnes relations institutionnelles et la bonne gouvernance.
Sur le plan sécuritaire, Philippe Mandat.
Sur le plan sécuritaire, le rapporteur l'a si bien dit, et il faut avouer que le gouvernement provincial y a été pour beaucoup, puisque le phénomène BDK ne date pas depuis l'avènement de Mbatchi, c'est un phénomène qui date de très longtemps, et il a fallu que Mbatchi vienne pour mettre fin une fois pour toutes à ces phénomènes.
Avec l'appui du gouvernement central.
Oui, bien entendu, mais c'est lui qui a poussé, qui a amené le gouvernement central à agir, puisque la situation avait trop duré.
Oui, ça c'est sur le plan sécuritaire.
Il y a encore un autre aspect en termes de relations interinstitutionnelles, soit avec l'Assemblée provinciale, avec les autres partis politiques ou acteurs politiques et sociétés civiles dans la province. Comment? Il faut reconnaître que les efforts ont été remarquables. Nous avons vu dans d'autres provinces où les gouverneurs et les présidents de l'Assemblée provinciale, par exemple, vivent à couteau tiré.
Là, vous pensez à quelle province, par exemple?
Peu importe, vous êtes journaliste, vous le savez si bien que moi. Donc, au niveau du Bas-Congo, des efforts ont été fournis. Je me rappellerai encore l'une des phrases célèbres du gouverneur à son arrivée qu'il dit « Je tends la main à l'honorable Foucault Ounzola, je tends la main à l'honorable François Timansi. » Il a cité encore d'autres noms, il dit « Ensemble, sur notre province. »
Voilà, donc vous voulez dire, s'il vous plaît, Germain Kounan, vous voulez dire que les relations institutionnelles sont bonnes.
Les relations institutionnelles sont bonnes.
Oui, mais sur le plan économique et social, Philippe Mandat vous dit, a dit que la province connaît des difficultés financières. Est-ce que vous reconnaissez cela? Et il accuse notamment le gouvernement central. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Bien entendu, il y a le journaliste a si bien dit. Vous savez, par exemple, la province élabore un budget. Et ce budget est centralisé au niveau de Kinshasa, des conseils avec les autres provinces. Et le Bas-Congo, par exemple, pour l'année 2008, a élaboré un budget de 106 milliards de francs congolais, en fonction, bien entendu, de nos recettes, de nos capacités mobilisatrices.
Oui.
Laissez-moi vous dire que ce budget a été revu à la baisse au niveau de 27 milliards de francs congolais.
Oui.
Nous passons de 106 milliards à 27 milliards.
Et il semble que sur le 27 milliards...
Sur le 27 milliards, la province n'a réussi que 15 milliards.
Donc à peu près la moitié de ce que vous devez
donc, avoir. Donc pratiquement 52%. Cela implique que le gouvernement provincial a du mal pour réaliser de performance sur le plan économique. Cela ne veut pas dire qu'il y a un chaos, il y a un échec.
Oui.
Pas du tout.
Oui.
Puisque le gouverneur a lancé le tout premier l'idée de créer une régie provinciale.
Oui.
L'idée que Fichet a emboîté après en créant déjà un cas.
Oui.
Au niveau du Bas-Congo, on avait déjà créé la réforme au mois de juillet 2007.
Oui. Germain Kouna, je vous garde. Vous n'en faites pas. Hein. On va tourner avec vous dans toute cette émission. On va donner le temps à Modeste Mbonigaba, qui joue le rôle d'analyste politique ce soir, juste pour donner son point de vue hein, par rapport à vos deux interventions. Je rappelle qu'il y avait, il y a aussi Philippe Mandavoudi qui a parlé avant. Oui, bonsoir Modeste Mbonigaba.
Bonsoir.
Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau, oui, après avoir entendu les deux intervenants, côté Assemblée provinciale de Bas-Congo et côté gouvernorat de province, par rapport à la gestion hein?
Oui, ce que je peux dire, c'est que ceux qui sont dans les institutions sont à peu près satisfaits de la manière dont les institutions fonctionnent. C'est peut-être compréhensible. Mais nous qui sommes dehors, qui observons et qui avons analysé la situation du pays depuis des années, nous ne voulions pas que le Congo démarre sa troisième république de cette manière-là. Nous pensions que le Congo est tombé tellement bas qu'il faut effectivement rompre avec l'ordre ancien. Or, je constate que, pas seulement au Bas-Congo.
Mais, évidemment, nous commençons par le Bas-Congo, mais on ira au
Congo. Oui, nous commençons par le Bas-Congo, mais en fait, nous constatons que le Congo n'a pas changé de rythme. Il est resté dans le rythme qui a toujours été le sien depuis en fait l'indépendance. Donc, il n'y a pas de rupture. Pour nous,
à quel niveau concrètement?
Pour nous, nous pensons qu'il faut rompre effectivement avec la manière de gouverner. Et cette rupture passe par une plus grande prise de conscience des gouvernés, c'est-à-dire des citoyens.
Oui.
Les citoyens doivent être plus exigeants. Je viens d'entendre quelques chiffres ici,
oui,
où on vous dit que le budget initial était de 106 milliards.
Oui.
Finalement, on a dit non, ce sera 27 milliards.
Et sur les 27,
et à la fin, on a donné que 15 milliards. Eh bien, au taux d'aujourd'hui, de 700 pour fixer les idées,
oui,
c'est à peine 20 millions de dollars. Voyez-vous, nous pensons que le Congo ne pourra jamais se développer avec une telle approche. Il faut donc, pensons-nous, faire vraiment casser avec l'ordre ancien, et pour y arriver, il faut au moins un temps de transition à l'intérieur d'un régime ou d'une mandature, comme on l'appelle, au moins une année où on se prépare à décoller. Parce que si on y va comme ça, d'un régime à un autre, on a l'impression que le budget de l'année précédente est juste légèrement amélioré par rapport au budget suivant. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on va relever le Congo.
Voilà. Alors, je reviens d'abord vers vous encore, Germain Kouna, vous qui représentez le gouverneur du Bas-Congo. D'abord, par rapport à ce que vient de dire Modeste Mbonigaba, vous pensez que vous êtes dans le bon, hein, en matière de gestion?
Bon, je crois que notre ami voit les choses d'une manière un peu globale. Mais il doit savoir que le mal dans notre pays était si profond. Moi, je suis de ceux-là qui croient que nous n'avons fait que reculer depuis un certain moment, avec une vitesse malheureusement incalculable. Et donc, aujourd'hui, les efforts qui sont en train d'être fournis sont à peine perceptibles. Parce que les bases, comme l'avais-je dit tantôt, étaient si profondes. Mais quand vous regardez pour le Bas Congo, de manière particulière, vous allez vous rendre compte que la gestion de la chose publique est particulièrement différente des anciens régimes. Je vous donne un exemple simple pour que vous puissiez le comprendre.
Oui.
Il y a un problème sérieux de corruption au niveau du Bas-Congo. Lorsque le gouverneur effectuait ses tournées à l'intérieur de la province, il y avait un mot qui revenait toujours. Tracasserie, et j'en passe. Finalement, le gouvernement provincial a créé une commission provinciale de lutte contre la corruption, de catastrophe administrative. Je crois qu'aujourd'hui, le Congo est la seule province qui dispose d'un tel instrument. Et aujourd'hui, si vous regardez le rapport de ce que cette commission a déjà bâti comme travail, vous devez être satisfait. Et donc aujourd'hui, en termes de gouvernance, il y a des choses qui sont en train d'être faites de manière très positive. Et sérieux, en termes de dépenses, il y a le respect des normes, par exemple en ce qui concerne la passation des marchés, et le gouverneur est très sévère par rapport à ces histoires.
Oui, là vous parlez de
une impulsion permettant à tout le monde de changer la manière de gérer la chose publique.
Oui, là,
et le résultat, laissez-moi le dire, si aujourd'hui on peut le percevoir peut-être de manière un peu fluide, mais je vous assure, à cette allure, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, ça sera une transformation totale.
Oui.
C'est ça l'importance d'avoir une vision lorsqu'on gère la chose publique.
Oui, très rapidement,
là où on est et on sait là où on va.
Oui, Germain Kouna, très rapidement, une question en rapport avec la population, parce que la population du Bas-Congo qui vous suit, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui attendaient de l'emploi. Est-ce que vous pouvez estimer combien d'emplois vous avez donné aux jeunes du Bas-Congo, par exemple?
Bon. Je vais vous donner des structures parce que j'ai suivi tout à l'heure, on a parlé que de deux entreprises, Soko et SGI. Mais moi, je peux vous dire d'abord, la REPER, la Régie provinciale d'encadrement de RSF, aujourd'hui a créé pratiquement 100 d'emplois. Le gouvernement provincial a créé le commissariat général au MIN, qui vient de créer 50 d'emplois. Il y a la société Soko qui en a créé pratiquement 700. Il y a la société Congo Service en Bandangou qui en a créé pratiquement 200.
Oui.
La société Congo Oil à Goma qui va raffiner de l'huile qui vient d'en créer pratiquement 100. Et quand vous allez à SGI, nous sommes à 250. Et il y a un grand projet actuellement, c'est BHP Bilton.
Oui.
À Mwanda, qui va créer pratiquement 12 000 emplois. Et BHP Bilton, vous le savez, est en train, est dans sa phase d'installation avec, bien entendu, l'aménagement du site de Pinga.
Merci.
Donc, ça sera, mais comme vous le savez.
Oui, oui, très rapidement, parce qu'on doit pas donner la parole à
Mwanda. Donc, comme vous le savez, le taux de chômage au niveau du pays d'abord, et on en voisine environ 70%. Et ceux qui sont un peu exigeants parlent de 85%.
Voilà. Germain Kouna, donc on retient que vous avez pu réaliser à peu près 1 000 000 d'emplois.
Non, je n'ai pas fini puisqu'il y a encore un projet de création.
Oui,
il vient de donner pratiquement 4 000 emplois.
Ouais, là, c'est
au-delà des 5 000 emplois.
Ouais, là, il y a des emplois à venir. Hein. Vous avez parlé de 12 000.
Les emplois à venir, nous serons pratiquement à 20 000.
Oui. Alors, Philippe Omanda vous dit, vous êtes d'accord avec tous ces chiffres en termes d'emplois créés pour les jeunes du Bas-Congo?
Non. Moi, je crois qu'il faut qu'on puisse nuancer. On ne peut pas créer l'emploi en créant des services publics qui pèsent sur le budget de la province. Donc, si on a créé le commissariat général au mine, ce n'était pas pour créer de l'emploi. C'était pour l'emploi. C'est vraiment quelque chose qui va venir après. Le gouverneur a voulu exploiter les recettes, les capacités, enfin, les potentialités minières de la province. Les problèmes de la REPER. Moi, au niveau de la santé, j'ai initié une interpellation à l'endroit du directeur général de la REPER. Mais la profession du Bas-Congo, par le biais de ses députés, a déclaré cette interpellation-là irrécevable, je ne sais pas pourquoi. Alors que, lorsque la REPER nous produit 2 milliards, pour toute une année, et que la REPER coûte à la province 400 millions, pour le simple bureau qui est d'abord ici à Matadi, sans compter ce que la province devra payer à tous ces gens qui viennent d'être recrutés par la REPER. Et si vous enlevez le pourcentage de la REPER, vous comprenez que finalement la province se retrouve main vide. Vous voyez, alors on ne peut pas parler de la création d'emplois par la création de services publics qui viennent peser sur le budget de la province. Les entreprises privées comme Soko, ce ne sont pas les créations du gouvernement provincial. Nous devons être clairs parce que moi, en tant que député provincial, je dois être franc envers moi-même d'abord.
C'est une création.
Par vocation professionnelle et puis conviction personnel, je ne peux pas dire que c'est le gouvernement provincial qui a créé Soko.
C'est qui
qui a créé Soko? C'est une entreprise qui s'ouvre au Gabon, qui s'ouvre en Angola, et donc ils sont venus exploiter du pétrole au nous, ça n'a rien à voir. Je sais peut-être mettre ça sur le compte du gouvernement provincial pour le plan, sur le plan de la sécurité, et non sur le plan de la création des emplois.
Mmh.
Et donc, vous comprenez que le problème de l'emploi se pose sur le plan international. Je crois que par modestie, il faudrait que nous puissions accepter qu'au Bas-Congo, nous sommes une ligne rouge quand le chômage fait rage aux États-Unis ou en France ou en Europe, après en Belgique ou en Italie.
Oui.
Nous n'allons pas dire qu'au Bas-Congo, on est en train de résorber le problème du chômage.
Oui.
Par contre, j'avais à plusieurs reprises dit que, en principe, pour que nous puissions résoudre le problème du chômage, nous devons plutôt endiguer l'exode rural. Et l'exode rural pour l'endiguer, nous devons industrialiser l'agriculture. Et d'ailleurs, selon certaines résolutions ou recommandations de la SADC de notre pays, fait membre et par conséquent notre province, 30% du budget général, pas du budget des investissements, mais du budget général, doivent être alloués à l'agriculture.
Ce
n'est pas le cas.
Ouais,
donc vous comprenez que juste là, il y a des choses qui ne piquent pas 30% au gouvernement provincial, mais que le gouvernement provincial doit accepter. Parce qu'il est entraîné par une conjoncture mondiale, donc il ne peut pas se séparer.
Voilà. Philippe Moura vous dit, on va poursuivre cette émission, on va passer à la deuxième partie qui concerne surtout les attentes par rapport au mandat, au reste du mandat qui vous attend, vous, en tant qu'autorité provinciale. Mais d'abord, ces réactions, ces messages qui viennent de nos auditeurs, Bin Malongi, nous explique de Lubumbashi, et pour lui, qu'est-ce qui a été fait au Bas-Congo dans le cadre de 5 chantiers de la République? Vous y répondrez. Il y a l'honorable Paulin Odian de Kisangani en province orientale. Il pense que le bilan de gestion de la majorité des provinces est largement négatif. Il est temps que la Cour de compte intervienne parce que les députés provinciaux ne sont pas à la hauteur. Papi Naigo de Gemena dans la province de l'Équateur pense qu'il est tôt pour nous Congolais d'avoir des assemblées provinciales. Au Congo, tout se fait sans préparation des cadres. Pour lui, ces assemblées provinciales sont une source de gaspillage pour le budget de l'État congolais. Un commentaire avec vous, Modeste Bonigaba, avant de passer à la deuxième partie de l'émission.
Oui, je crois que ce que je peux dire à ce stade, c'est que, en fait, nous nous attendions à ce qui se passe, à ce qui arrive. C'est-à-dire que le manque de rigueur à tous les niveaux, mais surtout dans le choix des hommes, non seulement lorsque ils sont nommés, mais aussi lorsqu'ils sont élus. On peut organiser autrement le système électoral, de manière à le rendre plus rigoureux, de manière à ce que le choix des dirigeants soit une véritable sélection. On peut arriver à organiser les choses de cette façon-là. Et aussi, il faut faire en sorte que, une fois que la sélection a été faite, le contrôle des citoyens sur leurs gouvernants soit un contrôle réel, sérieux. Parce qu'autrement, comment allons-nous les sanctionner à la fin du mandat? Donc cette complaisance qui habite non seulement les gouvernants, mais surtout les gouvernés, parce que c'est eux qui ont choisi les gouvernants, eh bien cette complaisance ne peut que produire ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Merci beaucoup. Près de 2 ans après l'installation des assemblées gouvernements provinciaux, quelles sont les attentes de la population du Bas-Congo pour le reste du mandat de leurs autorités provinciales sur le plan sécuritaire, économique et social? Nous en parlons tout de suite, mais c'est juste après ce rappel des contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quelles sont les attentes de la population du Bas-Congo pour le reste du mandat de leurs autorités provinciales sur le plan sécuritaire, économique et social? Les avis de certains habitants de Matadi sont partagés. On les écoute au micro de nos reporters Guillaume Nampala et Dani Kindanzita de Radio Okapi au Bas-Congo. Ils ont promené leur micro dans les rues de Matadi.
Matondo Menayame de Matadi. Au Bas-Congo, nous vivons de plus en plus un climat de paix, mais nos problèmes de tous les jours n'ont pas changé. Il n'y a pas de route, il n'y a rien pour amener des histoires de la forêt jusqu'ici. La population est délaissée.
Jacques Mbozolo de Matadi. Alors, je ne sais pas si on pourra attendre grand chose de ces autorités. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Au niveau de l'Assemblée provinciale, il n'y a rien qu'on peut attendre de quoi, parce que jusque-là, nous n'avons pas vu des actions que par rapport à l'Assemblée provinciale, on peut mener par rapport à la population.
Benoît Wabelo, franchise oblige, je crois que rien n'a été fait et la population ne s'est pas Kretouvé.
C'est Angèle Matondo de Matadi. J'apprécie le travail de notre gouverneur du Bas-Congo. Il est en train d'arranger les routes, de réceptionner des bâtiments, les hôpitaux. En plus, il vient de donner des dons dans des hôpitaux, des radios, des médicaments. Comment c'est bien, des carrefours sont propres. Il a réceptionné des routes.
Soumboulou-Koki de Matadi. Pour le Parlement provincial, nous, on croyait se retrouver pour les avoir élus. Mais ce ne sont que les jeeps et les gros cylindres qu'on retrouve dans les grandes artères de la ville de Matadi. Pour le gouvernement provincial, beaucoup d'images à la télé concernant les soi-disant entrepreneurs. Mais sur le terrain, aucune entreprise n'ouvre ses portes à la population.
Voilà, Modeste Bourigaba, c'est la population, du moins quelques habitants du Bas-Congo, précisément du Matadi qui ont parlé. Vous êtes aussi de la société civile. Peut-être vous avez à dire par rapport à leurs propos.
Oui, mais vous avez noté que 80% des intervenants sont plutôt déçus. Eh bien, cela montre que notre diagnostic était le bon. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas espérer relever le niveau de vie et le développement tout simplement de notre pays, du Bas-Congo en particulier, mais de tous les pays en général, si nous continuons comme ça. En fait, c'est ça notre message. Nous pensons qu'il faut révolutionner la gouvernance et l'éthique dans notre pays pour espérer effectivement prendre un vrai départ.
Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller, par exemple, aux représentants du gouverneur? Je suppose que le gouverneur lui-même, Batimbacha, nous suit, ainsi qu'aux autorités, ceux qui sont au niveau de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que vous pouvez leur prodiguer comme conseil par rapport aux défis qui les attendent pour le reste de leur mandat?
Non, à la limite, ce n'est pas à eux que je pourrais m'adresser, parce que, en fait, le travail doit venir de la base, c'est-à-dire les gouverner, les citoyens.
La population dans le Bas-Congo.
Si les citoyens sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire organisés comme ils sont, pour être... Bon, on a entendu quand même certains se plaindre, et ils sont déçus du résultat.
Oui.
Mais ils ne savent pas, en fait, gérer leur comment dirais-je, leur pouvoir, hein, de manière à faire en sorte que ceux qui gouvernent soient plus performants que ça. Vous voyez?
Oui.
Donc, quand vous voyez un peu comment nos dirigeants, quand ils font des tournées à l'intérieur ou partout ils passent, comment ils sont accueillis, on étend des pagnes, on marche. Donc, ils ont l'impression que la population est satisfaite de leur travail.
Alors qu'elle ne l'est pas.
Alors que finalement, quand ils ne sont pas en présence du gouverneur, voilà ce qu'ils ont dit là.
Voilà.
Ça montre que nous avons un réel problème de rapport entre gouvernant et gouverné qui doit être plus étroit, de manière à ce que les gouvernants puissent effectivement avoir peur de ne pas être performants.
Voilà. Alors, Philippe Monde a vous dit, vous avez suivi ce qu'a dit Modeste Bourigaba, vous avez suivi les habitants de Matadi qui ont parlé, vous êtes mieux placé pour nous parler des attentes de tous les habitants du Bas-Congo par rapport au reste de votre mandat.
Oui, moi je crois que je voudrais quand même qu'on puisse considérer que le premier de province d'aujourd'hui n'est pas comparable à celui d'hier. Mmh. Donc hier, on avait un gouverneur de province, un vice-gouverneur qui était le maître à bord. Et maintenant, nous avons un gouverneur de province avec le ministre provincial. Donc, sa marge de manœuvre ne peut pas être la même que celle de ses prédécesseurs. Alors, vous voyez, lorsque, je crois que le conseiller Germain a dit que le budget la somme qui devait être allouée à la province avait été exécutée, qui n'avait été payée qu'à 50%. Moi, je crois que, aux situations exceptionnelles, il faut des solutions exceptionnelles. Ce qui est vrai est que on peut lire dans le chef du gouverneur et du ministre une certaine volonté de pouvoir réaliser le programme du gouvernement provincial que nous avons adopté. Je peux donner quelques exemples. Vous savez qu'avec le fonds social, chaque fois que le fonds social ou la CTB doit exécuter des travaux, et qu'il soit prévu un pourcentage à payer par la communauté locale, donc 10%, le gouverneur de province n'a jamais retiré, hésité de pouvoir signer un chèque et donner le pourcentage ou bien la part qui revient à la communauté locale comme contribution.
Oui.
Donc, c'est la bonne volonté.
Oui.
Mais maintenant, devant cette bonne volonté, il faut maintenant que la bonne volonté puisse être accompagnée d'une certaine
intention de le réaliser. Oui. Et maintenant, nous sommes devant un gouvernement central qui est buté à plusieurs difficultés et qui ne peut pas libérer les 40%. Mais même si le gouvernement central devait libérer les 40%, voyez un peu, moi j'étais à Kinshasa avec la seule premier ministre, le pauvre ministre du budget. Nous avons fait le calcul sur les recettes qui doivent revenir au gouvernement, à la province du Bas-Congo. Nous avons tablé sur le pétrole. Et à l'époque, nous avons tablé sur le montant de 80 ou 90 dollars le baril. Aujourd'hui, vous savez là où le baril est.
Il est trop bas.
Même si le gouvernement provincial, le gouvernement central peut libérer, et s'il doit tenir compte de la baisse du prix du baril, nous serons toujours devant la situation que nous sommes en train de déplorer.
Oui, mais
c'est ce qui signifie que nous devons, au niveau local, faire les efforts pour recouvrer des recettes au niveau local. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que moi, je sais, j'ai beaucoup voyagé. Il y a des grands états que j'ai voyagé où je devais payer 5 dollars pour visiter une bibliothèque. Et les 5 dollars entraient dans les budgets du gouvernement américain. Mais nous, au Congo, quand une recette a pour base 50 fois ou 100 fois ou 1000 fois, on la néglige, on attend les 40%, on attend les dons. Et quand vous interpellez un ministre au gouvernement, à l'Assemblée, quand vous interpellez le type de recette à l'Assemblée, curieusement, l'interpellation est déclarée irrécevable.
Oui, Philippe Monde a vous dit, puisque vous avez déjà
un élément.
Oui, puisque vous avez déjà abordé là, je dirais même les défis hein, qui attendent vous.
C'est un élément, monsieur Jean-Claude.
Oui, vous avez dit qu'il faut recouvrir les recettes. Quoi encore? Allez-y très rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
En dehors de ça, puisque à des situations exceptionnelles, il faut des solutions exceptionnelles, je crois qu'il serait il serait mieux qu'on puisse limiter les extrêmes de placement des ministres. Et parfois aussi du gouverneur à travers la province, qui nécessairement ne peut être que budgétivore, pour exploiter effectivement les ETD. Il faut que les chefs de secteur et tous ceux qui sont au niveau de la base puissent travailler. C'est pas normal qu'un petit pont de 3 mètres, qu'on puisse avoir l'inauguration par un ministre. Alors, si nous, au niveau de province, nous voulons que Kinshasa soit juste à notre endroit parce que décentralisation, le pays ne peut être développé que par les provinces. Nous aussi, à notre niveau, nous devons être juste envers les ETD.
Et pour vous résumer en quelques secondes.
Pour me résumer, je dois dire que les ETD ne sont pas encore exploités. Or, la province ne peut se développer qu'avec les concours des ETD.
Donc,
les ETD ne reçoivent pas les moyens conséquents. S'il n'y a que peu qui vient, il ne faudrait pas que tout ce qui vient soit consacré au paiement des rémunérations des personnes politiques, des députés, des ministres, qui sais-je encore, je regrette que je sois dans les sacs, mais que voulez-vous? Moi, je pense qu'on doit légitimer le travail des ETD, qu'on donne que les ETD travaillent et que le gouvernement provincial visite de temps à autre, plutôt que d'effectuer de grandes missions, parfois à Kinshasa, parfois par-ci, par-là, sans résultat concret. Parce que je dis aux grands, aux solutions exceptionnelles, il faut aux situations exceptionnelles, il faut des solutions exceptionnelles.
Merci beaucoup. On va laisser Germain Kouna, qui est délégué du gouverneur du Bas-Congo, il est son conseiller en communication, répondre. Très rapidement, il vous faut recouvrer des recettes, limiter les déplacements parfois inutiles qui coûtent cher à la province, légitimer les entités territoriales décentralisées. Qu'est-ce que vous répondez?
Je crois que quand on gère une entité, il y a de principes auxquels on ne peut pas dérober. Et il y a deux principes fondamentaux. Le premier, c'est connaître le problème. Et le second, c'est proposer des solutions pour résoudre ces problèmes. Ce n'est pas dans le sens de essai-erreur, mais c'est dans le sens du pragmatisme dans l'action. Alors, la question qu'il faut se poser, quels sont les problèmes du Bas-Congo? Tout naturellement, les gens, on va dire que c'est la pauvreté. Donc, il faut lutter contre la pauvreté. Et comment lutter contre la pauvreté? Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un document, le DCRP, qui doit être mis en exergue, qu'on doit exploiter à fond. Et aujourd'hui, pour le développement du Bas-Congo, il y a un secteur qu'on peut bien exploiter pour avoir un boom. Et aujourd'hui, nous y sommes. Il y a l'agriculture, par exemple. Et aujourd'hui, on a créé un fonds pour l'agriculture au Bas-Congo qui aide le paysan pour que ces derniers puissent pouvoir s'y faire.
Avec quoi concrètement?
Non, il y a un montant que l'Assemblée provinciale a accepté.
Et c'est combien?
L'adoption du budget, je crois que c'est 100 millions de francs congolais par mois. Mais avec cet argent, on a créé un fonds pour l'agriculture.
Et vous donnez combien à un paysan, par exemple?
Pardon?
Vous comptez donner combien à un paysan?
Non, ce sont ceux qui ont des projets, on les finance, et par ailleurs, on fait ce qu'on appelle la distribution de semences pour qu'on puisse augmenter la capacité de la province en termes de l'agriculture. Et pour mieux s'y prendre, parce qu'il y a un auditeur qui a parlé en termes de route. Je vous ai parlé tantôt, on a créé pratiquement 4000 emplois juste pour désengorger toutes les routes des déserts agricoles de la province. Et ce programme est en application il y a bientôt une année. Et sans crainte d'être contredit,
oui,
là où les véhicules ne passaient pas, il y a 2 ans, aujourd'hui l'accès est facile. Aujourd'hui, on vient de réhabiliter beaucoup de routes.
Oui, monsieur Germain Kouna, il nous reste plus beaucoup de temps. Je vais vous demander d'être un peu plus concis, parce qu'il y a justement Bin Malongi qui a posé la question de savoir ce que le Bas-Congo avait déjà réalisé en termes de 5 chantiers de la République. Et là-dessus, parce que vous parlez des routes, je connais au moins la route Boma-Mwanda, dont le chantier a été inauguré plusieurs fois par les autorités, même nationales. Elle est dans quel état aujourd'hui?
Dans la route Boma-Mwanda, ça, c'est la nationale numéro 1. Et vous savez, la nationale numéro 1, à qui revient la responsabilité de la réhabilité? C'est le ministre national des travaux publics. Il y a un contrat qui a été signé pour réhabiliter cette route. Donc la question doit être posée au ministre national. Mais au niveau de la province, en ce qui concerne les routes d'intérêt provincial, ainsi que le route des déserts agricoles. Allez y voir, vous êtes journaliste, envoyez vos journalistes, les caméramens, et ils vont vous dire ce qui est en train d'être fait. Et tout cela parce que j'étais en train de parler en termes de problèmes et des solutions qu'on est en train de proposer. Aujourd'hui, le gouvernement provincial, qui dirige le gouverneur, est dans une démarche de lutter systématiquement avec les moyens de bord, comme le préconise d'ailleurs l'honorable député, de quelles propositions qu'on met en exergue d'ailleurs. Pour s'y prendre, on sait que la lutte contre la pauvreté requiert l'attention, les capacités de tout le monde.
Voilà. Mais on
ne développe pas un peuple, on se développe.
Oui, Germain Kouna, on n'a plus beaucoup de temps, hein, c'est juste 2 minutes. Très rapidement, Guy Maté va peut-être nous lire juste 2 réactions, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Guy Maté, juste 2 réactions, on va s'excuser auprès des auditeurs.
Oui, Jean-Claude, Emina Bassendé de Mbandaka en Équateur pense que les députés provinciaux préfèrent voter des lois pour l'augmentation de leurs salaires au détriment des lois sur les problèmes sécuritaires et socio-économiques. Un auditeur anonyme pense que les bilans des assemblées provinciales sont négatifs presque partout au Congo. Parce que, estime-t-il, les députés provinciaux cherchent seulement à faire tomber les gouverneurs au lieu de se battre pour la bonne marche de leur province.
Voilà, on va conclure avec vous, Modeste Bolivaba, par rapport à tout ce que vous avez entendu et l'avenir du Bas-Congo.
Oui, et l'avenir du Bas-Congo, comme celui de toutes les autres provinces du Congo, est sombre si nous continuons comme ça. Parce que nous venons ensemble de découvrir que nous sommes loin en deçà du minimum qu'il fallait pour que le Congo réellement redécolle.
Mais il y a aussi l'implication du gouvernement central qui doit...
Naturellement, c'est l'impulsion d'avenir du gouvernement central.
Ouais.
Donc, déjà, au niveau du gouvernement central, la bonne gouvernance n'y est pas. Donc, ça se répercute au niveau des provinces. Aujourd'hui, nous avons suivi le cas du Bas-Congo, mais je vous préviens que ce sera à peu près pareil dans toutes les autres provinces. Vous ne trouverez pas une seule province qui va sortir du lot pour dire, voilà, là, ça marche mieux qu'ailleurs. Parce que les problèmes de fond ne sont pas réglés. aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé le problème de fond que nous soulevons dans notre ouvrage qui vient de sortir, sur la gouvernance nouvelle qui doit être installée au Congo, on ne pourra pas s'en sortir.
Merci beaucoup, Modeste Bonigaba, Germain Kouna et Philippe Mwanda, vous dites nos invités. Alain Gong était à la mise en onde, qu'elle écoutait à la réalisation avec Guy Maté, Claude Kianza, Pierrot et la Mégie et Martin Sebejang à la coordination. Devant ce micro, j'entends Toumba Kamanga à leur nom. Je vous dis merci de nous avoir suivis.
Okapi, okapi.